en dirait des nouvelles.
Jean-François Cadet,
Mickaël Goncalves,
Baptiste Antoine.
Bonjour, bonsoir.
Notre-Dame de Paris, la dame de tout le monde. C'est pas Saint-Pierre, Saint-Jean, Saint-François, c'est Notre-Dame. Donc d'emblée, l'homme qui vient, il est concerné par cette bâtisse qui s'appelle Notre-Dame. Donc il est pris dans le manteau de la Vierge, quasiment, dans ses bras, Notre-Dame. C'est l'un des lieux les plus visités d'Europe. C'est entre 40 et 60 000 personnes par jour. Donc si vous allez à l'aéroport de Roissy, vous prenez une personne sur trois, elle vient à Notre-Dame. C'est ouvert tous les jours. On ne demande ni la carte d'identité, ni le passeport, ni l'acte de baptême. C'est pas payant, c'est gratuit, etc. Elle est à tous, elle est au cœur de la cité, sur ce site magnifique de l'île de la cité. Mais c'est plus que ça, c'est que les lignes de bus, les lignes de métro, et puis les bateaux aussi qui se croisent là, et les piétons se croisent, on est obligé de passer par là, qu'est-ce que vous voulez, devant la cathédrale. C'est le point zéro du départ des routes, mais c'est aussi le point d'aboutissement de millions et de millions de gens qui chaque année viennent visiter Paris.
C'était l'ancien recteur de Notre-Dame, Mgr Patrick Jacquin, en 2013, dans l'émission spéciale « Si loin, si proche » que Céline Develay-Mazurel, Olga Samsonov et Xavier Gibert ont consacré aux 850 ans de Notre-Dame, un symbole de la France, de la culture européenne, partiellement détruit par le violent incendie qui s'est déclaré hier soir aux alentours de 18h50. Les images terribles, impressionnantes, ont fait le tour du monde. Elles ont provoqué une émotion planétaire. Des témoignages de solidarité sont venus du monde entier. Bonjour Olivier de Chalut.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes le responsable des guides bénévoles de Notre-Dame. Vous êtes au téléphone, vous êtes sur place. Vous ne pouviez pas, évidemment, ne pas être là aujourd'hui. Vous l'étiez d'ailleurs, je crois, dès hier soir. Dans quel état d'esprit est-ce que vous êtes à l'heure où nous parlons?
C'est difficile à exprimer. En réalité, il y a une grande émotion à voir la cathédrale décapitée. Je vous avoue que ça fait 10 ans que je travaille ici et ça fait 10 ans que j'entretiens et que je tisse un lien avec cet édifice. Et aujourd'hui, tout part en fumée. Et je suis rentré dans la cathédrale tout à l'heure. Je me suis approché de l'entrée avec les pompiers. La voûte est largement au sol. On a un amas énorme de poutres carbonisées, il y a de l'eau absolument partout, il y a une lumière qu'on ne lui connaît pas, ces pierres ont une couleur qui ne sont pas leurs couleurs, je ne reconnais pas ma cathédrale.
Vous avez vu hier les premières flammes, qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là?
J'y ai pas cru au départ, j'étais à côté dans un café, j'ai vu cette fumée sortir de l'Hôtel Dieu, et puis j'ai forcément eu un doute parce que la cathédrale était derrière et je me suis rapproché et là effectivement j'ai retrouvé, je suis arrivé vraiment parmi les premiers sur le parvis, j'ai retrouvé les autres équipes de la cathédrale qui étaient à l'intérieur et on pouvait pas y croire et les braises qui étaient énormes, qui faisaient peut-être la taille d'une pièce de 2 euros, voire plus grosse, nous ont petit à petit chassé vers le fond du parvis parce que la cathédrale essaimait l'incendie tout autour d'elle. Et je suis resté là jusqu'à 2h30 du matin, planté, debout, à rien pouvoir dire face à cet incendie.
Oui, on sent effectivement énormément d'émotion dans vos mots et dans votre voix, Olivier de Chalut. Et c'est vrai qu'au cœur de l'île de la Cité, au cœur de Paris, au cœur de la France, la cathédrale est devenue, un peu à l'image de ce que vous disiez à l'instant, l'espace d'une nuit, le cœur du monde. La preuve, s'il en était besoin, de la place que le bâtiment et son aura ont pris dans notre imaginaire collectif, dans celui des Français, du monde entier, grâce en particulier à la littérature, notamment Victor Hugo, bien sûr, mais pas seulement, et aux artistes depuis des siècles, Amélie Beaucourt.
C'est tout l'imaginaire qui entoure Notre-Dame de Paris qui défilait dans la tête des badauds venus assister au spectacle. Les yeux rivés sur la tour nord en feu, comment ne pas penser à Quasimodo, le bossu sonneur de cloches? C'est la légende qui berce la cathédrale depuis le roman de Victor Hugo, publié en 1831. Dans ce roman, quelques mots prémonitoires de Victor Hugo sont d'ailleurs devenus tristement célèbres depuis l'incendie. Les voici, lus ce matin par le comédien Guillaume Gallienne au micro de France Inter.
Tous les yeux s'étaient levés vers le haut de l'église. Ce qu'ils voyaient était extraordinaire. Sur le sommet de la galerie la plus élevée, plus haut que la rosace centrale, il y avait une grande flamme qui montait entre les deux clochers avec des tourbillons d'étincelles. Une grande flamme désordonnée et furieuse dont le vent emportait par moments un lambeau dans la fumée. Au-dessous de cette flamme, au-dessous de la sombre balustrade à trèfle de braise.
L'histoire de Quasimodo et d'Esmeralda a beaucoup inspiré l'opéra et le cinéma. En 1956, le réalisateur Jean Delannoy en fait un film dans lequel le bossu est interprété par un Anthony Quinn défiguré. En 1996, l'histoire est adaptée en dessin animé par les studios Disney.
On dit que c'est l'âme de Paris qui s'enflamme quand sonne les cloches de Notre-Dame.
Et sur les planches, une comédie musicale de Luc Plamondon et Richard Cocciante devient un véritable phénomène, à tel point qu'une tournée des 20 ans du spectacle a été organisée l'année dernière.
Venu le temps des cathédrales.
Outre la légende du bossu et de la bohémienne, la cathédrale, son architecture et son histoire sont une source d'inspiration inépuisable dans la culture. Depuis les Frères Lumière, qui en ont fait l'un des premiers endroits qu'ils filment, jusqu'à Valérie Donzelli, dont le long métrage Notre-Dame sortira prochainement sur les écrans. En peinture, elle est immortalisée par les pinceaux de Marc Chagall, d'Henri Matisse ou encore de Maurice Sutriau. Des poètes comme Théophile Gautier ou Charles Péguy la célèbrent de leurs plumes. Et l'un des vers, signé Gérard de Nerval, a d'ailleurs eu une résonance toute particulière hier soir.
Notre-Dame est bien vieille. On la verra peut-être enterrée cependant Paris qu'elle a vu naître. Mais dans quelques mille ans, le temps fera broncher comme un loup fait à un bœuf. Cette carcasse lourde tordra ses nerfs de fer. Et puis, d'une dent lourde, rongera tristement ses vieux os de rocher. Bien des hommes de tous les pays de la terre viendront pour contempler cette ruine austère. Rêveurs et relisant le livre de Victor, alors ils croiront voir la vieille basilique, tout ainsi qu'elle était puissante et magnifique, se lever devant eux comme l'ombre d'un mort.
Bonjour Bertrand de Feydeau.
Bonjour.
Vous êtes le vice-président de la Fondation du Patrimoine. Comment est-ce que vous expliquez cette émotion qui est pas seulement française, on le disait, qui est réellement mondiale? Notre-Dame de Paris, ce n'est pas un bâtiment comme les autres.
Non, c'est un bâtiment qui porte une émotion particulière. Je suis frappé d'ailleurs de cette espèce de mouvement d'adhésion, de réunion, qui se passe et qui traverse, j'allais dire, toutes les divisions dont on a été abreuvé ces derniers temps, qui s'impose avec une force, avec une sérénité extraordinaire.
Une sérénité et une combativité, qu'on ne peut pas imaginer que ce monument puisse mourir. Quoi. La reconstruction, j'allais dire la résurrection, c'est une évidence.
Oui, d'ailleurs ce texte très beau que nous venons d'entendre évoque à la fois la mort et la résurrection de la cathédrale. Pour les chrétiens, c'est extraordinairement symbolique de voir que cet accident dramatique intervient au début de la semaine sainte, en attendant la fin de cette semaine qui est marquée par la résurrection. Je pense qu'il y a véritablement une espèce de soulèvement populaire qui, au fond, est frappé par ces images qu'on a vues, qui sont dramatiques de beauté et qui éveillent les cœurs, qui sollicitent les générosités et qui font que le modeste appel que nous avons lancé cette nuit à la Fondation du Patrimoine reçoit un écho incroyable, incroyable.
Olivier de Chalus, cet écho qui existe effectivement depuis hier soir, qui ne cesse d'ailleurs de s'amplifier, et pas seulement en France, il vous met un petit peu de baume au cœur, j'imagine.
Ben, pour tout vous dire... J'en suis pas véritablement conscient parce que je suis sur le parvis depuis hier soir. Et principalement, je réponds aux questions de vos confrères, mais je sais pas ce qui se passe dans la presse. Et puis, je fais partie de cette famille qu'on appelle la famille cathédrale. Et pour nous, on est vraiment blessés profondément. C'est la famille qui est en peine. Et finalement, ce qui se passe à large échelle, on en est conscient. Je peux vous dire que face à moi, sur les quais, il y a des centaines de personnes qui se sont amassées et qui regardent de façon ébahie la cathédrale. Mais c'est quelque chose qu'on a... On a des difficultés à sentir, nous.
Voilà, une vraie sidération. Bonjour, Dany Sandron.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes professeur d'histoire de l'art et d'archéologie du Moyen-Âge à Paris-Sorbonne. Vous dirigez le centre André Chastel, qui est un laboratoire de recherche en histoire de l'art. La question va peut-être vous surprendre, parce que pour vous, c'est une évidence, mais en quoi cette cathédrale Notre-Dame de Paris est-elle la vitrine, est-elle le symbole, est-elle la tête de pont de l'art gothique en France?
Notre-Dame de Paris tient une place tout à fait exceptionnelle dans le panorama de l'architecture gothique parce que, à l'époque de sa construction, c'est le monument de très loin le plus gigantesque, donc qui non seulement à la mesure de la ville, Paris qui devient une capitale à la fin du XIIe siècle, mais du pays et même au-delà, va exercer un impact énorme et donner en quelque sorte la jauge de l'architecture des grandes églises. Et on a évidemment cette litanie des cathédrales qui la suivent, Chartres, Amiens, Reims, Beauvais, etc.
Donc le bâtiment est tourné vers Jérusalem, comme beaucoup de
cathédrales. Oui, le cœur est orienté, donc tourné vers l'Orient, vers Jérusalem.
Voilà, donc première pierre posée en 1163 en présence du pape Alexandre III, chantier lancé par l'évêque de Paris de l'époque qui s'appelait Maurice de Sully, qui décide donc de construire une cathédrale dédiée à la Vierge Marie. Alors là aussi, c'est une question un peu piège, mais le chantier a duré combien de temps? On peut le dater d'ailleurs, c'est compliqué.
On peut dater le début du chantier. Il y a cette pose de la première pierre solennellement en présence du pape, du roi Louis VII, donc une grande cérémonie. Peut-être le chantier avait-il commencé quelques temps auparavant, quelques mois, maximum quelques années. Mais la fin du chantier, en fait, est toujours repoussée parce que Notre-Dame de Paris, et c'est une autre caractéristique de ce monument extraordinaire, a été jusqu'à la fin du XIVe siècle, donc sur plus de deux siècles, sans arrêt, un chantier d'expérimentation et de mise au goût du jour. Alors que bien d'autres cathédrales, au bout de plusieurs générations, fermaient leur chantier, eh bien Notre-Dame, le gros œuvre est terminé vers 1220 et vers 1250, pardon, on construit une flèche, celle qui a précédé la flèche de Viollet-le-Duc qui a disparu hier soir, des nouvelles façades au transept, puis des aménagements du chœur liturgique, la construction de chapelles qui s'est prolongée jusqu'au début du XIVe siècle, etc. C'est seulement à la fin du XIVe siècle que le chantier se calme, si je puis dire, et sera repris en pleine époque classique, évidemment, avec notamment le vœu de Louis XIII que Louis XIV fait installer dans le nouveau sanctuaire.
Alors prenons un exemple, celui de la charpente. Hein. L'ensemble de la charpente a été détruit hier, les dimensions là aussi sont impressionnantes, hein, les longues de plus de 100 mètres, 13 mètres de largeur dans la nef, 40 mètres dans le transept, 10 mètres de hauteur. C'était l'une des plus anciennes de charpentes de Paris.
Oui, tout à fait, puisque une bonne partie de cette charpente remontait au XIIIe siècle avec des remplois vraisemblablement de la charpente primitive, donc des années 1160-80. Il y a une grosse campagne de transformation des combles avec établissement d'une nouvelle coursière, transformation des arcs boutants, système d'évacuation des eaux de pluie au début du XIIIe siècle, donc ce qui a entraîné une reprise complète. Et donc cette charpente médiévale subsistait jusqu'à hier sur la nef, sur le chœur, en revanche sur le transept, donc qui est le vaisseau qui forme la traverse d'un plan en croix, la charpente avait été renouvelée au XIXe siècle en même temps qu'on reconstruisait la flèche.
Mais alors ce qui a brûlé hier, est-ce que c'était la charpente d'origine, les éléments en bois d'origine ou pas du tout?
Ah oui, tout à fait, la charpente d'origine est définitivement disparue.
Alors comment est-ce qu'elle a été construite cette charpente? Alors faut pas être trop technique, mais est-ce que c'était une prouesse déjà pour l'époque, parce que les meilleurs ouvriers étaient à pied d'œuvre pour bâtir les cathédrales en France, et Notre-Dame de Paris en particulier?
Oui, tout à fait. Donc on peut regretter qu'il n'y ait pas eu d'études aussi poussées de la charpente médiévale de Notre-Dame que pour par exemple la cathédrale de Bourges. On a une étude récente et donc qui a montré que pour construire ces charpentes gigantesques, hein, avec des centaines de troncs, de chaînes, il fallait une sorte de préfabrication et de logistique du chantier, bien en amont la pose effective des bois de charpente au sommet de l'édifice. Donc c'est au moins un projet qui s'étend sur plusieurs années, voire plusieurs décennies, parce que il faut repérer les arbres de la bonne taille ou en planter qui, 20 ou 30 ans après, auront la taille requise, etc.
Donc chaque poutre provenait d'un chêne. C'est pour ça qu'on a surnommé cette charpente la forêt.
Voilà, parce qu'il y a autant de bois que d'arbres dans une forêt.
Alors, selon les premiers éléments, l'incendie serait parti des combles de la cathédrale, aux alentours de 18h50 hier, je le disais. Le lien entre le chantier et le sinistre n'est pas encore établi, Olivier de Chalut, mais on a quand même l'impression, et c'est ça qui est peut-être encore plus terrible pour quelqu'un comme vous, c'est que ce sont finalement les soins apportés à la cathédrale pour la rénover, pour lui donner une nouvelle jeunesse qui ont abouti à sa destruction partielle.
Oui, tout à fait. Il faut savoir que autour de la cathédrale, la cathédrale est l'objet de grands soins de la part des gens qui y vivent, que ce soit les gens du clergé, que ce soit les gens de la DRAC qui est propriétaire de l'édifice, que ce soit l'architecte en chef des monuments historiques, Philippe Villeneuve. Toutes ces personnes travaillent de concert. Alors, les projets mettent forcément du temps à se monter, à s'organiser. Mais quoi qu'il en soit, tout le monde a vraiment à cœur que tout soit fait de façon très très fine, très très rigoureuse. Et de ce que j'ai pu voir, de toutes les discussions que j'ai pu avoir avec tous ces gens-là, je peux vous garantir que tout est fait dans les règles, avec une précision et une attention absolument remarquables. Mais malheureusement, probablement, si c'est effectivement un accident qui est lié au chantier, rien n'évite à 100% l'accident.
Voilà, c'est ce qui est effectivement le plus probable, si l'on en croit le secrétaire d'État français à l'intérieur, Laurent Nunez, qui veut évidemment attendre les conclusions de l'enquête. En tout cas, parmi les images les plus frappantes qui ont tourné en boucle hier soir sur les chaînes de télévision du monde entier, Bertrand Feydeau, il y a eu l'effondrement de la flèche qui culminait à 93 mètres de haut. Là, c'est vraiment l'image de la cathédrale qui s'effondre. On a conservé les beffrois, qui sont évidemment aussi vraiment l'image presque archétypale, l'image de carte postale, mais cette flèche-là, c'est tout un symbole aussi.
Oui, même si elle était récente, puisqu'elle a été réalisée par Viollet-le-Duc en lieu place d'un autre élément, dont je ne sais pas si on a le dessin, mais vous le savez peut-être.
1860, Dany Sandron, fin du
1958-60. Oui, on a des dessins de la flèche précédente, mais schématiques.
C'est ça. C'est vrai que cet effondrement, les images sont impressionnantes, cet effondrement de cette flèche qui est embrasée, qui se brise un petit peu en deux et qui se précipite vers le sol, on va garder ça très longtemps dans nos mémoires.
Hein. Oui, 500 c'est... tonnes de bois recouvertes par 250 tonnes de plomb, ça a l'air très léger comme ça, en fait, c'est considérablement lourd, Dany Sandron, c'est extraordinaire. Quoi. Le symbole de la flèche d'une cathédrale, c'est quoi? C'est le symbole de la bonté aux cieux, il fallait qu'elle soit le plus haut possible.
Dans le cas de Notre-Dame de Paris, comme à la Sainte-Chapelle, je pense que c'est une architecture parlante. C'est une forme d'épine gigantesque qui renvoie à la couronne du Christ dont la relique était conservée à la Sainte-Chapelle. Et la construction de la première flèche de Notre-Dame de Paris intervient sans doute juste après la construction de la première flèche de la Sainte-Chapelle, 1248, la date de sa consécration.
Mais la flèche qui s'est donc effondrée hier, celle de Viollet-le-Duc, donc 19e siècle, elle a été extrêmement controversée au moment de son édification. Pour quelles raisons ?
C'est-à-dire que Viollet-le-Duc a pris quand même beaucoup de liberté par rapport au monument médiéval. Donc la flèche précédente avait été démontée juste avant la Révolution parce qu'elle était en très mauvais état et menaçait de s'effondrer. Mais on en a des représentations. Et Viollet-le-Duc jugeait que les proportions de cette flèche médiévale étaient trop trapues. Et qu'il fallait donc, pour la construction d'une nouvelle flèche, eh bien donner plus d'élan à la construction. C'est pour ça qu'on a atteint les 96 mètres alors que la flèche médiévale ne devait pas dépasser 89 mètres. Donc c'est quand même une liberté prise avec le monument. C'est pas une restauration archéologique, mais on peut pas reprocher à Viollet-le-Duc quelque chose dont il n'avait pas vraiment le souci. Mmh. Voilà, c'est essentiellement pour ces affaires de proportion. Le décor après, évidemment, avec ses galeries de prophètes, donc certains reprennent les traits de l'architecte et de son équipe.
Oui, parce que Viollet-le-Duc s'est fait représenter sous les traits de Saint Thomas.
Saint Thomas, pardon, qui est le patron des architectes, avec l'équerre dans la main, etc. Donc immédiatement reconnaissable.
Ouais, donc des statues qui se trouvait à côté de la flèche il y a encore quelques jours. Hein,
oui, dans les nous, donc à la jonction des combles du haut vaisseau, du transept, etc. Fort heureusement déposée, donc je ne sais pas où elle se trouve actuellement.
En Dordogne.
Donc elles sont à l'abri, sinon elles auraient été également détruites par l'incendie.
Hein. Oui, et puis au-dessus de la flèche, il y avait un paratonnerre figuré par un coq, Olivier de Chalut, un coq qui était une sorte, d'ailleurs, je ne sais plus qui a utilisé cette expression hier soir, une sorte de paratonnerre spirituel, parce qu'il y avait effectivement la fonction de protection contre les orages, mais à l'intérieur se trouvaient aussi des reliques.
Oui, tout à fait. En tout cas, il devait être déposé bientôt et on devait récupérer les reliques qui se trouvaient à l'intérieur. C'était ce qui était prévu.
Alors, quelles sont les reliques qui ont été perdues, Olivier de Chalut?
Alors, si vous parlez des reliques qui étaient à l'intérieur du coq, nul ne sait. Probablement, normalement, quand les reliques sont insérées, en tout cas, c'est ce qu'on supposait, il y avait des inscriptions qui permettaient de les identifier. Ensuite, évidemment, la relique majeure de Notre-Dame de Paris, c'est la Sainte Couronne d'épines, qui se trouve dans le cœur de la cathédrale, dans un coffre-fort qui est dans le sol. Et hier, on a eu un moment pas de panique, mais disons qu'il a fallu aller récupérer la couronne d'épines, et on savait pas très bien comment s'y prendre, déjà pour rentrer. Finalement, les services de secours sont venus nous trouver en nous disant « c'est bon, on y va », et elle est dans un coffre-fort et on n'avait pas le code. Donc on avait bien eu des difficultés à récupérer l'information, et puis finalement elle a pu être sauvée et être mise en lieu sûr. Après, tout n'a pas pu être sauvé, tout n'a pas pu être sorti de la cathédrale, mais je peux vous dire, pour les avoir devant les yeux, que déjà les grands vitraux nord et sud de la cathédrale, qui font 13 mètres de diamètre, et qui datent du milieu du XIIIe siècle, donc ils sont des vitraux qui ont entre 750 et 800 ans, sont encore debout, ils n'ont pas noirci, et je voudrais vraiment qu'on ait une pensée pour les services de secours qui ont travaillé, pour les pompiers de Paris, pour les pompiers des Yvelines, pour les pompiers de Seine-et-Marne notamment, qui étaient là, et qui ont fait un travail absolument incroyable pour que la cathédrale puisse nous parvenir dans l'état dans lequel elle est.
Donc vous êtes plutôt rassuré.
Le feu a failli prendre les tours, oui. et si le feu avait pris les tours, en fait, les cloches auraient effondré les voûtes en dessous et le feu se serait propagé à l'intérieur de l'édifice.
Donc vous êtes plutôt rassurant, Olivier de Chalut, sur l'état des vitraux. On l'a compris. Est-ce que vous avez des informations en ce qui concerne les peintures et singulièrement ce qu'on appelle les mets, c'est-à-dire ces immenses tableaux qui datent du XVIIe, début XVIIIe siècle?
Non, malheureusement non. Ils sont dans les chapelles latérales de la nef. Et principalement, et également autour du cœur. Donc ce sont des tableaux immenses, qui sont extrêmement renommés, qui ont été peints par des grands maîtres de cette époque. Malheureusement, j'ai pas pu accéder véritablement à l'intérieur de l'édifice, donc je ne sais pas dans quel état sont ces tableaux, mais ils ont forcément été très largement inondés, vu la quantité d'eau qui se trouve encore à l'intérieur de la cathédrale, et j'ai bien peur qu'ils aient été lourdement esquintés.
Oui, parce que l'eau, hein, effectivement, Dany Sandron, c'est avec les flammes, et peut-être plus encore que les flammes pour les peintures, a vu toute la quantité, effectivement, d'eau qui a été déversée sur le bâtiment hier. C'est vraiment l'ennemi majeur pour les œuvres d'art, et singulièrement pour les peintures.
Oui, c'est un fléau majeur. L'eau va imprégner les maçonneries, évidemment, s'enfoncer dans le sol, et donc il y a des risques de déstabilisation du site. Abîmer évidemment tout ce qui est peinture, tissu, même les vestiges de polychromie sur les maçonneries, etc. vont souffrir évidemment de cette eau qui, par nécessité, a coulé pendant des heures sur les maçonneries de Notre-Dame.
Qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement sur ces immenses tableaux intitulés Mais, donc Mais ça s'écrit M-A-Y-S, ça vient du mois de mai, mais de l'ancien français, Mais c'est le mois de Marie, hein, je parle sous votre,
voilà, tout à fait.
Sous votre contrôle. C'est un don de la confrérie des Orfèvres.
Voilà, qui était dédié à Sainte-Anne et qui, tous les ans, donc, offrait un tableau à Notre-Dame qui sont venus orner l'édifice à l'intérieur. On a des gravures ou des peintures de Notre-Dame avant la Révolution, avec cette collection de peintures qui illustrent chacune une scène de la vie de la Vierge. Donc certaines peintures sont restées à Notre-Dame, d'autres ont été déposées par exemple au musée d'Arras, qui a une collection importante de mets de Notre-Dame. Et c'est tout un pan évidemment de l'histoire de Notre-Dame et de l'histoire de l'art en général, parce que les grands peintres des 17e, 18e ont réalisé des peintures de ce type.
Bertrand de Feydeau, la Fondation du patrimoine, on va évoquer dans un instant évidemment l'appel aux dons qu'elle a lancé, mais ce qui l'intéresse aujourd'hui dans cette perspective de restauration, c'est le bâtiment, c'est le contenu des œuvres d'art, c'est les deux ?
C'est les deux. D'abord, ils ne sont pas dissociables. C'est bien sûr, il faut bien d'abord restaurer l'édifice lui-même, mais dans les travaux qu'il y aura à faire, il y en a qui sont liés à la structure, il y en a qui sont liés probablement aux vitraux, probablement à l'orgue dont on n'a pas beaucoup parlé, mais
on va y venir.
S'il y a un élément qui craint la chaleur, c'est bien les tuyaux de l'orgue.
Alors on sait que le petit orgue a été endommagé par le feu, hein, c'est ce qu'a annoncé tout à l'heure un responsable des pompiers. Est-ce que vous avez des nouvelles, Olivier de Chalut, des trois orgues, dont le fameux grand orgue, hein, de Cavaillé-Coll?
Non, absolument pas. Et effectivement, comme disait Bertrand Feydeau, c'est une grande question. Il a pris la pluie, c'est sûr, l'eau. L'humidité dans la cathédrale a forcément été élevée, la chaleur également, et les tuyaux jouent, le bois également. On sait qu'en 1910, cet orgue-là, il a subi le taux d'humidité important qu'il y avait à l'intérieur de la cathédrale du fait de la crue en janvier 1910, et que cette humidité a déréglé l'instrument, pour vous dire à quel point il est fragile, ou en tout cas il est précis. Et évidemment, cet orgue, il va falloir certainement le redémonter, le renettoyer, et il va certainement y avoir de gros travaux à faire avant de pouvoir l'entendre de nouveau.
Quelques notes du grand orgue de Notre-Dame, 5 claviers, 109 jeux, près de 8000 tuyaux. Ce que l'on entend, c'est un extrait d'un album qui vient de sortir, un album de l'organiste Olivier Latry, intitulé Back to the Future, sous le label La Dolce Volta. Une édition spéciale de VMDN aujourd'hui sur RFI au lendemain de l'incendie qui a partiellement détruit la cathédrale Notre-Dame de Paris, un bâtiment qui a accompagné l'histoire de la capitale française et même l'histoire de France. Amélie Beaucourt.
Elle a vu des rois, encore enfants, se faire couronner. Elle en a vu d'autres se marier. C'est sur son parvis, par exemple, que la reine Margot a dû dire oui au futur Henri IV, 6 jours avant le massacre de la Saint-Barthélemy. Sur son parvis, oui, parce qu'étant protestant, on avait interdit à Henri d'entrer dans la cathédrale.
Henri de Bourbon, roi de Navarre.
Devant l'église, par cette chaleur.
Voulez-vous prendre pour légitime
épouse. Je ne vous le pardonnerai jamais.
Marguerite de Valois, princesse de France.
Oui.
Marguerite de Valois, princesse de France, voulez-vous prendre pour légitime époux Henri de Bourbon, roi de Navarre ?
Dans ces murs ont résonné 1000 discours, 1000 chants religieux, et l'un des plus marquants, c'est un éloge funèbre écrit par Bossuet, évêque et écrivain du XVIIe siècle, une péroraison qu'il prononce lors des funérailles du grand Condé, ce prince rebelle, cousin lointain du roi Soleil, qui s'est insurgé contre l'autorité de la couronne de France.
Servez donc ce roi immortel et si plein de miséricorde qui vous comptera un soupir et un verre d'eau donné en son nom plus que tous les autres ne feront jamais tout votre sang répandu.
Un siècle et demi plus tard, ce n'est plus un roi mais un empereur qui remonte son allée centrale. Napoléon choisit la cathédrale majestueuse pour son sacre et pour le couronnement de sa femme Joséphine. Une scène dont on a gardé un célèbre tableau signé du peintre David. Un tableau à la taille monumentale, quoiqu'un peu éloigné de la réalité.
En tant que peintre officiel, David avait assisté à la cérémonie depuis une loge. Il en avait noté les moindres détails et croqué les participants, puis les avait fait poser chacun leur tour dans son atelier. Mais toute superproduction ayant besoin d'un scénariste, Napoléon n'allait pas se contenter de son rôle d'acteur et de producteur. Il fallait qu'il soit au centre de la composition, dans tous les sens du terme. Il commença donc à réécrire l'histoire. Laetitia, sa mère, étant absente le jour du sacre car elle était brouillée avec lui, il voulut qu'elle soit ajoutée afin qu'elle assiste émue au triomphe de son fils.
Plus qu'un témoin, Notre-Dame a parfois été une véritable actrice de l'histoire, une annonciatrice de dangers ou de bonnes nouvelles. Nous sommes en 1944 et à travers les postes radio, on entend au loin les cloches de la cathédrale qui annoncent Paris libéré.
Attention, ça tire. Il y a encore des indices. Ce sont les cloches de la libération qui sonnent. Les Alliés ont franchi les portes de Paris. Il est exactement 22h25.
Mais elle a aussi vu mourir les grands protagonistes de nos manuels d'histoire, rendu hommage à des personnalités emblématiques comme l'abbé Pierre ou sœur Emmanuelle. Mais hier soir, alors que le toit de Notre-Dame était en feu, c'est elle qu'on a cru voir mourir. C'est elle et toute l'histoire qu'elle a traversée et qu'elle nous raconte depuis des siècles qui partait en fumée.
Oui, Bertrand de Feydeau, il y a à la fois le patrimoine matériel et puis il ne faut pas oublier non plus le patrimoine immatériel. Et les deux étaient vraiment, et sont toujours d'ailleurs, complètement imbriqués à l'intérieur de ce bâtiment.
Complètement, et je pense que ce patrimoine immatériel auquel vous faites référence, il est quand même très centré autour de la couronne d'épines, qui est un élément qui avait été rapporté par Saint-Louis, au terme d'ailleurs d'une procession qui a été relevée par les historiens, qui était absolument étonnante. On parle à ce moment-là peut-être 1 million de personnes qui ont accompagné le roi de puissance où avait été déposée la couronne d'épines en passant par Vincennes. C'est un véritable mouvement populaire qui a accompagné cela. C'était à la fois un geste de vénération, c'était aussi dans l'esprit de Saint-Louis certainement un geste politique, puisque c'était la réaffirmation ou l'affirmation du primat de Paris comme capitale à la fois politique et religieuse. Et le cardinal Lustiger avait...
Donc l'ancien archevêque de Paris.
...avait un soin particulier pour cette relique. C'est lui qui avait souhaité qu'elle soit exposée de façon permanente dans la chapelle d'Aix de la cathédrale, c'est-à-dire derrière le grand autel, dans un reliquaire qui avait été... dont la conception avait été confiée à Jean-Marie du Tilleul et qui a posé des problèmes, semble-t-il, au moment de l'incendie, parce que je ne sais pas si quelqu'un en avait la clé. Je veux dire qu'hier soir, en voyant ces flammes, je redoutais qu'on ne puisse pas déplacer ce reliquaire qui était ancré dans le sol, justement, pour ne pas pouvoir être violé. Visiblement, on a réussi et c'est extrêmement heureux. Je pense que le rayonnement de la cathédrale, ce que vous appelez cet aspect immatériel, est très largement lié à la présence de la couronne d'épines en ce lieu.
Alors, l'incendie n'était pas encore maîtrisé hein, hier soir que les autorités religieuses et politiques évoquaient déjà la question de la reconstruction, le clergé catholique utilisant le mot espérance, hein, comme celle de la résurrection ce début de semaine sainte, on le disait tout à l'heure. Depuis hier soir, mais a fortiori ce matin, les grandes fortunes de France, comme les familles Arnaud et Pinault, Marc Ladret de la Charrière, le groupe Total, d'autres grands groupes français, des patrons, des mécènes ont annoncé jusqu'à 600 millions d'euros au dernier chiffrage, mais des choses évoluent évidemment de minute en minute. Et puis vous-même, Bertrand de Feydeau, à la Fondation du Patrimoine, vous avez lancé un appel aux dons. Le public a répondu déjà massivement à cet appel, dès hier soir, je crois.
Déjà massivement, nous avons lancé ça effectivement hier soir. Ce qui me frappe, c'est la conjonction à la fois de dons d'un montant exceptionnel, qui sont ceux que vous évoquez tout de suite, et de la multitude des petits dons.
Chacun peut mettre son obole.
Absolument, qui les accompagne. Vous annoncez le chiffre total de 600 millions. Il y en a effectivement près de 120 qui sont passés par la Fondation du Patrimoine à l'heure où je vous parle, alors qu'on a ouvert la souscription hier soir. Bon. Dont un don, je le signale tout de suite, de 100 millions d'euros de la Fondation Total, qui accompagne en tant que fondateur la Fondation du Patrimoine depuis l'origine. Voilà. Mais tout ceci sera probablement nécessaire. Il est extrêmement difficile, comme le disait tout à l'heure notre intervenant, de chiffrer les travaux à faire parce que nous n'avons pas de diagnostic précis sur les conséquences, notamment du choc thermique qui s'est produit sur cette pierre qui est quand même fragile, qui est le calcaire. Et on a quand même deux éléments de la voûte qui se sont effondrés, la croisée du transept et, semble-t-il, le transept nord. Ce sont deux alertes. J'espère que effectivement les rosaces n'ont pas été touchées, mais quand on voit ce que j'ai vu tout à l'heure, c'est-à-dire le pignon de ce transept nord perçant le ciel sans toiture, on peut se demander si quand même le choc thermique qui a été occasionné par l'incendie de cette charpente et de cette toiture n'a pas aussi affecté ce pignon et les vitraux de la rosace, même s'ils sont en place.
Donc beaucoup de questions subsistent. Alors justement, j'ai essayé d'en savoir plus. Il y a quelques minutes, nous avons pu joindre François Janot. Il est architecte en chef des bâtiments de France, en charge des grands édifices de l'État. Et je lui ai d'abord demandé, je lui ai posé beaucoup de questions. On va les entendre ses réponses, surtout dans un instant. Je lui ai d'abord demandé si cet incendie ne posait pas d'abord la question de la protection des cathédrales contre les incendies. François Janot.
C'est certain, en tout cas, il est probable que, à la suite de cette catastrophe, la réglementation, notamment dans les monuments historiques et dans nos bâtiments anciens, se raffermisse un petit peu et que on ait des règles un tout petit peu plus contraignantes que celles que nous avons aujourd'hui, bien que c'est un sujet sur lequel nous travaillons. Le service des monuments historiques dans son entier et nous essayons dans la mesure du possible de mettre nos édifices au moins sous surveillance de l'incendie.
Qu'est-ce qu'il faut changer alors, François Joanneau?
Écoutez, je ne sais pas s'il faut changer, il faut sans doute améliorer et peut-être durcir un petit peu certaines règles. J'en parlais tout à l'heure avec un ingénieur en fluide, l'installation de sprinklers, vous savez, ces arrosages automatiques qui existent dans les grands magasins, par exemple, en cas d'incendie. Peut-être faudrait-il équiper les grands combles de nos cathédrales d'un système identique. Alors je sais que ça pose d'autres problèmes parce que l'eau, évidemment, est le grand ennemi lorsqu'il y a un incendie sur la conservation des œuvres d'art et de l'architecture. Mais finalement, la quantité d'eau qu'on aurait eu à donner pour éteindre ce démarrage d'incendie par rapport au désastre d'aujourd'hui, vous voyez, on peut relativiser et se dire que finalement, ça aurait peut-être été une solution.
Quand le secrétaire d'État chargé de l'Intérieur, Laurent Nunez, dit tout à l'heure que les vulnérabilités de la structure ont été identifiées, en particulier au niveau de la voûte, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il peut y avoir des effondrements?
Écoutez, je suis pas sûr qu'on ait identifié toutes les vulnérabilités, c'est un peu tôt, parce que les désastres, les désordres qu'occasionne un incendie, notamment avec l'eau, sont souvent très, très, très pernicieux. Et sans avoir été examiné de très près la structure, il est bien difficile aujourd'hui de dire que tous les problèmes sont réglés. Les mesures de provisoire d'urgence vont être assez complexes à mettre en place.
Et donc d'autres mauvaises surprises ne sont pas exclues selon vous?
J'en sais rien, mais c'est probable parce que quand même 2000 litres d'eau par minute, vous imaginez ce que ça peut représenter, c'est considérable. Donc on affaiblit considérablement les structures, la pierre va se trouver alourdie par cette eau, les joints ont probablement été lavés. Enfin, on a des désordres qui peuvent apparaître désormais qu'on n'imagine pas encore, quoi. Donc il y a beaucoup de mesures de protection, de conservatoire à mettre en place dès maintenant et certainement assez rapidement, quoi.
On pense déjà, François Janot, à la reconstruction. Est-ce que l'on peut et est-ce que l'on doit reconstruire à l'identique?
Écoutez, je vais parler personnellement, je trouve que c'est évident. On ne peut pas laisser un édifice de cette qualité, aussi emblématique, aussi symbolique, qui représente tant de choses dans notre histoire, en plein cœur de Paris et en plein cœur de la France. On ne peut pas laisser cet édifice en ruine, c'est inimaginable. La reconstruction est évidente. Maintenant, il y a plusieurs hypothèses de reconstruction. Je pense que l'aspect extérieur devra être impérativement sauvegardé. C'est-à-dire on devra retrouver, le public devra retrouver le Notre-Dame de Paris telle qu'elle existait avant ce désastre. Après, il y a probablement plusieurs hypothèses, plusieurs solutions dans la manière de faire, notamment sur, par exemple, la charpente.
Mais alors justement, ça veut dire charpente en bois ou on peut imaginer une charpente en béton ou en métal comme sur d'autres édifices, ça s'est déjà vu?
Oui, bien sûr, mais rien ne doit être écarté à ce sujet. Je pense que l'architecte en chef, Philippe Villeneuve, aura plusieurs hypothèses à présenter, avec un chiffrage, avec les délais de réalisation, etc. Et évidemment, le ministère de la Culture prendra ses décisions en fonction des différentes hypothèses. Mais je crois qu'il faut écarter, pour le moment, il n'en faut écarter aucune.
Il y a eu un précédent, évidemment, François Jeannot, que chacun garde en mémoire, c'est la reconstruction de la cathédrale de Reims, après les bombardements allemands de la Première Guerre mondiale. Est-ce que l'on va procéder de la même manière, ou est-ce que les techniques ont tellement évolué que cela n'a plus rien à voir?
Non, je ne sais pas. Alors, on ne peut pas procéder de la même manière. La charpente de Paquet à Reims est exceptionnelle. En plus, on était en 1920. Je ne vais pas dire la découverte du béton armé, mais enfin, c'est quand même un modèle exemplaire en béton armé. Bon, on n'est pas tout à fait dans les mêmes techniques aujourd'hui, mais on pourrait adapter, je dis bien au conditionnel, on pourrait adapter une technique parmi d'autres en béton armé, en métal, qui fasse appel à notre technologie actuelle. Il y a aucune raison, au contraire, peut-être même serait-il utile de raisonner de cette manière.
Il va y en avoir de toute façon pour des années, pour des dizaines d'années, on peut déjà évaluer cela?
Là encore, c'est quand même difficile de vous dire combien d'années. Bon, ça va être long, mais il va y avoir des urgences, des priorités. Moi, je pense que l'une des priorités, c'est évidemment de remettre l'édifice à l'abri. Et pour le remettre à l'abri, c'est sa couverture, c'est sa charpente. Alors maintenant, il y a tous les à côté. J'ai cru comprendre que les vitraux avaient été atteints, que la rose ou les roses avaient été également atteintes. Il y a beaucoup certainement de travaux parallèles qui devront être réalisés et qui vont certainement être longs. Les voûtes, je ne sais pas encore très bien de quelle manière elles vont pouvoir être sauvegardées, mais une voûte qui a pris autant d'eau et qui en plus a reçu tout le plomb fondu sur ses reins, vous imaginez bien qu'il va y avoir des travaux à faire sur ces voûtes et ce sont des travaux considérables. Alors, vous donner un temps, je crois que ce ne serait pas raisonnable de dire aujourd'hui ça va se faire en tant de temps. Non, ça va certainement prendre beaucoup de temps, mais je pense que le service des monuments historiques est conscient de l'urgence et de la priorité à redonner à cet édifice son aspect d'origine.
Dernière question, François Jeannot. Notre-Dame est inscrite au patrimoine mondial de l'humanité depuis 1991. Qu'est-ce que ça change?
Ça change beaucoup de choses. Enfin, ça change que l'UNESCO, alors que bien souvent les architectes français, les architectes en chef des monuments historiques notamment, aident bien souvent pour des reconstructions, des restaurations à l'extérieur dans les pays et sur du patrimoine mondial de l'UNESCO. Eh bien là, en quelque sorte, la France va demander une aide auprès de l'UNESCO pour que précisément ces travaux se réalisent de la meilleure façon possible. Alors on a les compétences chez nous, il n'y a pas de doute là-dessus. On a les compétences, on a les maîtres d'œuvre, on a les ingénieurs, on a les entreprises. Mais je pense aussi que l'UNESCO portera un regard très particulier sur cette reconstruction.
Merci beaucoup François Jeannot qui était en ligne avec nous il y a quelques minutes avant le début de cette émission. Je vous pose la même question, Dany Sandron. Est-ce que l'on peut, visiblement, d'après ce que dit François Jeannot, mais est-ce que l'on doit construire, reconstruire à l'identique, y compris ce qui n'est pas visible par le grand public? Là, c'est à l'historien que vous êtes et que je pose la question.
Oui, je pense qu'il faut laisser la porte ouverte, en fait, comme l'a dit François Jeannot, à toutes les hypothèses, etc. C'est vrai que de l'extérieur, il faut que Notre-Dame retrouve ses volumes. La dernière restauration de la toiture, hein, sous la responsabilité de Benjamin Mouton, l'avait fait, hein, en restituant des lisses, en couronnement, en crêtage de la toiture en plomb. Donc il faut une toiture en plomb, après qu'elle repose sur une charpente en bois, métallique ou autre, qui ne sera pas visible de l'extérieur. Je pense que...
ça n'a pas discussion... beaucoup d'importance, en fait.
Je ne pense pas. Il y a aussi, ça a été évoqué, une question de coût et de temps. Hein. Réaliser une charpente en chêne à l'identique de la charpente qui a disparu hier, ça prendra beaucoup plus de temps. Ce serait sans doute beaucoup plus onéreux que de construire une charpente métallique. Mais je ne prends pas position là-dessus. Je veux juste simplement indiquer que la restauration de la cathédrale de Reims, donc sinistrée en septembre 1914, a pris 20 ans. Hein. De 1918 à 1938, elle a été inaugurée juste avant la Deuxième Guerre mondiale.
Alors si on peut être cynique quelques secondes, Bertrand Feydeau, est-ce que c'est pas finalement ce drame, cette tragédie, n'est pas aussi une chance incroyable pour un certain nombre d'entreprises françaises, pour un certain nombre d'artisans français, de montrer à la fois l'excellence de leur travail et de relancer aussi la machine économique?
Une chance, je ne sais pas, mais une occasion. Une occasion parce que je pense que le compagnonnage en France a souffert de la réduction des dotations de crédit au bénéfice des monuments historiques, et que on va s'apercevoir peut-être que plus que le défaut d'argent, c'est le défaut de main-d'œuvre qui va freiner la restauration de la cathédrale. Parce que le nombre de compagnons qu'il faut mettre au travail pour aller vérifier ces voûtes, éventuellement les refaire, ils ne sont pas si nombreux que cela. Il ne faut pas dégarnir les autres chantiers en France, même si le chantier de la cathédrale va être prioritaire. Et donc ça peut être l'occasion aussi de faire naître des vocations.
Mais les compétences, elles sont là aujourd'hui.
Les compétences, oui.
En France.
Les savoir-faire.
On peut aller les chercher à l'étranger.
Non, il y a des compétences très grandes dans la tradition du compagnonnage français. Le problème, c'est qu'on est en face d'un chantier qui va être d'une dimension considérable. Et si on n'y prend pas garde et que l'on met toute la ressource humaine sur ce chantier-là, on va laisser en déshérence d'autres chantiers qui sont également très importants. Donc je crois qu'il faut appeler de nos voeux que un désir de transmission de ces savoirs, on s'appuie sur ce genre de drame pour susciter des vocations, former des jeunes et recréer peut-être un corps de compagnons plus important, capable d'entretenir non seulement la cathédrale de Paris, l'ensemble des cathédrales de France et tous les édifices qui méritent d'être protégés.
Avec peut-être aussi une forme d'union aussi entre les très grandes entreprises. Il y en a une d'entre elles qui a proposé là une forme de consortium sur l'union ferait la force en quelque sorte entre les très grands acteurs et les petits artisans pour les TPE.
Je vous donne deux exemples qui me sont parvenus dans la journée de volonté de coopération dans des domaines complètement divers. Je recevais ce matin un appel de la direction générale du groupe Orange, Stéphane Richard et Gervais Pélissier, qui me disaient « Nous, on peut pas vous financer, c'est pas notre vocation d'entreprise, mais vous allez avoir certainement des problèmes d'informatique pour gérer toutes vos bases de données, c'est très compliqué. Nous mettons toute notre technologie à votre disposition. » Autre exemple, je reçois tout à l'heure un coup de téléphone du groupe AXA, qui est propriétaire de la forêt de Troncet, et qui me dit « Mais je ne sais pas ce qu'on peut faire, mais nous avons les plus beaux chênes de France. Si vous avez besoin d'arbres pour reconstruire cette charpente, venez nous voir. »
Donc mobilisation générale.
Voilà, ces deux exemples sont très illustratifs et viennent s'ajouter à tous ces mouvements du cœur de quelquefois de donateurs modestes qui ont autant d'importance que ces grands réflexes des grandes entreprises.
Le dernier mot pour vous, Olivier de Chalut, qu'est-ce que vous allez faire maintenant, puisque vous allez continuer, j'imagine, même si en tant que guide vous êtes un petit peu au chômage technique, si j'ose dire, mais vous allez continuer à vous mettre concrètement encore tous les jours au service de Notre-Dame de Paris?
Et en fait, j'aimerais revenir peut-être sur la notion de patrimoine mondial immatériel.
Allez-y,
parce qu'il faut comprendre un petit peu ce qui se passe à la cathédrale, en termes de musique, en termes de liturgie. En fait, c'est un lieu où on cherche à faire tout à la perfection et on y arrive. Et aujourd'hui, la vie de la cathédrale va s'arrêter. Et ce savoir-faire, il va falloir qu'on le maintienne à haut niveau, qu'on soit capable de redémarrer un petit peu les choses dans quelques mois, dans quelques années, je ne sais pas. Et donc il y a plein de questions qui vont se poser. Aujourd'hui, l'incendie est maîtrisé, les pompiers ont a priori arrêté leur travail, ils sont encore nombreux sur le parvis. On commence à vider les poches d'eau qui sont dans les sous-sols de la cathédrale.
Oui.
le bilan va être fait progressivement, et puis on va se mettre petit à petit au